Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Écho en partenariat avec CapScience et la librairie Mola. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de sortir de notre façon habituelle de voir le monde et nous allons tenter de le voir avec les yeux des autres sociétés humaines. Et pour tenter ce voyage un peu périlleux, nous avons le plaisir d'accueillir un des meilleurs guides sur le sujet, Philippe Descola, bonjour.
Bonjour.
Si vous le permettez, je vais commencer par vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre travail et qui seraient venus ce soir soit par hasard, soit par curiosité, sachant que le hasard fait bien les choses pour nous ce soir, et la curiosité n'est pas un vilain défaut. Donc Philippe Descola, vous êtes anthropologue, professeur émérite du Collège de France, où vous avez occupé la chaire d'anthropologie de la nature, vous avez dirigé le laboratoire d'anthropologie sociale de l'EHESS, et vous êtes médaille d'or du CNRS en 2012 pour l'ensemble de vos travaux. Vous êtes spécialiste du rapport à la nature établi par les sociétés humaines. Vous avez commencé vos travaux ethnographiques en Équateur chez les Achoirs. Puis vous avez progressivement étendu votre réflexion à d'autres sociétés. Avec « Par-delà nature et culture » publié chez Gallimard en 2005, vous dépassez l'opposition entre nature et culture. Et aujourd'hui, vous publiez aux éditions du Seuil un ouvrage passionnant, ici, qui s'appelle « Les formes du visible ». Dans cet essai, vous éclairez d'une lumière un peu nouvelle, en tout cas pour moi ça l'était totalement, toutes les images produites par les humains, depuis les grottes de Lascaux jusqu'au masque des Indiens, en passant par l'art occidental. Alors avant d'attaquer le propos du livre, puisqu'il faut un petit background pour aborder ce sujet, il me semble important que vous nous rappeliez comment il s'inscrit dans la suite logique de la déconstruction de la notion de nature, qui est un fil directeur que vous portez depuis au moins 15 ans, même plus que ça, ça vous est venu plus tôt encore. Et comment vous avez découvert cette évidence, que cette évidence apparente de notion de nature était en fait un construit de notre société.
Alors désolé d'abord pour ce retard qui n'est pas de mon fait. Je vais essayer de rattraper par la vivacité du propos. Cette affaire du caractère relatif de l'idée de nature, elle est venue de mon expérience ethnographique chez les Achoirs. Là-bas, dans les années 70, au milieu des années 70, j'ai mené un terrain de plusieurs années avec ma compagne, et j'étais parti étudier la façon dont cette société socialise la nature. C'était mon point de départ, c'était l'idée que je voulais développer, c'était le genre d'enquête que je voulais mener, c'est ce que j'ai fait. Mais je me suis aperçu que socialiser la nature n'avait guère de sens pour les Achoirs, parce que pour ce que j'appelais moi la nature, c'était des plantes, des animaux, des esprits, des êtres avec lesquels ils entretenaient des rapports d'antagonisme, de séduction, de connivence, etc., puisqu'ils pouvaient s'adresser à eux par l'intermédiaire d'incantations magiques, par l'intermédiaire de rêves, où ils les voyaient apparaître comme des personnes humaines. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que les outils intellectuels avec lesquels j'étais parti, qui étaient des outils philosophiques anciens en Europe, n'étaient pas adéquats. Et à mon retour du terrain, je me suis fixé comme programme de comprendre quelles étaient les différentes formes de continuité, de discontinuité que les humains discernaient dans leur rapport avec les non-humains, la nature étant une des formes parmi d'autres. Donc je me suis fixé ce programme et je l'ai mené systématiquement dans mon enseignement, d'abord à l'École des hautes études en sciences sociales et ensuite au Collège de France. Et ce qui aboutit notamment à ce livre que vous mentionnez tout à l'heure, les Par de la nature et culture, où je proposais différentes façons de percevoir différents modèles, en quelque sorte, qui m'était apparu à la lecture de l'ethnographie. Parce que quand on fait de l'anthropologie comparative, bien évidemment, on se sert au départ de la stimulation intellectuelle que vous ont donné les gens auprès desquels vous avez résidé pendant quelques années, auprès desquels je reviens d'ailleurs, mais vous servez aussi, bien évidemment, de l'énorme documentation ethnographique et historique disponible. Et j'ai donc proposé dans ce livre, Par de la nature et culture, l'idée qu'il y avait quatre grandes formes, au fond, de ce que j'appellerais maintenant des mondiations, c'est-à-dire des formes de mondiation, c'est-à-dire de donner ordre et sens au monde. L'une d'entre elles que j'avais découvert sur le terrain chez les Achoirs, et dont je me suis aperçu qu'elle était commune dans le reste de, dans certaines autres régions du monde, notamment bien sûr dans le reste de l'Amazonie, puisque les Atchouars vivent, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais à la frontière de l'Équateur et du Pérou, dans une forêt du Piémont amazonien, mais aussi parmi les populations amérindiennes du nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, etc. Et cette forme, j'ai décidé de l'appeler animisme en récupérant un concept qui était un peu discrédité, qui avait été forgé par les premiers anthropologues évolutionnistes à la fin du 19e siècle, mais en le redéfinissant d'une façon nouvelle, c'est-à-dire à la fois l'idée que la plupart des non-humains ont une intériorité analogue à celle des humains, c'est-à-dire qu'on peut discerner en eux des intentions, peut-être des désirs, et on peut communiquer avec eux, mais que, en revanche, la plupart des non-humains, tous même, vivent dans des niches écologiques tout à fait singulières, et que le monde de chacun de ces espèces, si vous voulez, parlons d'espèces ou de formes de vie, parce que en fait c'est plus large que ça, est un prolongement de leurs facultés biologiques. Et de leur capacité qu'ils ont d'agir sur le monde. Et ce qui est assez logique, puisque, au fond, hein, le monde d'un poisson n'est pas celui d'un aigle, etc. Et donc, c'était quelque chose qui était absolument manifeste, à la fois chez les Atchouars, mais dans les autres populations animistes auxquelles je m'étais intéressé, et qui contrastait, évidemment, avec l'outillage intellectuel que j'avais amené dans ma musette et dans mon cerveau, et qui posait, au contraire, que les non-humains sont les seuls êtres dans le monde qui ont une intériorité, capacité réflexive, raisonnement, la manipulation des symboles, etc. Mais qu'en revanche, et ça, on le voit depuis Descartes, ils sont peut-être soit des machines, ou en tout cas, ils sont dépendants des grandes lois de la nature, de la physique, de la chimie, et après de la biologie, comme n'importe quelle autre entité biotique ou abiotique dans le monde. Donc ça faisait déjà deux façons très contrastées de percevoir des continuités et des discontinuités dans le monde. À cela s'en ajoutaient deux autres qui étaient, d'une part, que j'ai appelé totémisme, pour reprendre simplement un terme très ancien aussi dans la littérature anthropologique, et essentiellement illustré par les aborigènes australiens, et qui est fondé sur l'idée que des groupes d'humains et de non-humains on partage des qualités physiques et morales qui sont dérivés ou issus d'une sorte de prototype originel, on peut appeler ça un totem si vous voulez, qui n'est pas nécessairement un animal, mais qui peut porter un nom d'animal. C'est un prototype dont la forme, en fait, n'est pas très clairement distinguée. Et ces groupes d'humains et de non-humains, à l'intérieur d'une classe totémique, se différencient d'autres groupes d'humains et de non-humains, à l'intérieur d'autres classes totémiques, par d'autres qualités physiques et morales.
Donc, la différence entre l'animisme, parce que c'est l'objet de votre travail de ce livre-là, c'est de prendre les quatre ontologies, les quatre mondiations qu'on va parcourir, et d'en trouver leur traduction dans toute la figuration.
Voilà.
Si je reviens sur l'animisme, parce qu'on va essayer, pour que tout le monde comprenne bien, moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver les différences, parce que je suis pas expert du sujet. L'animisme, on donne une vie aux non-humains. On donne une intériorité, une existence aux non-humains, et on a un dialogue avec eux.
Voilà, c'est une intériorité, c'est-à-dire qu'on leur... Alors, on lit ça dans les monographies ethnologiques, on dit les animaux et les plantes ont une âme. Hein. Ils ont une capacité d'expression interne, c'est pour ça que j'appelle ça une intériorité, qui permet de communiquer avec eux, mais qui leur permet aussi de communiquer entre eux par une sorte de langue universelle, qui évidemment est la langue de la population considérée. Mais pour terminer ce que je disais auparavant, si je me suis intéressé aux images, c'est qu'en effet, ces formes de mondiation, je les avais mises en évidence auparavant à partir de textes, c'est à partir de récits, de rituels, à partir de mythes, à partir de traités médicaux, à partir de traités de divination et des choses comme ça, et que je voulais voir si ces propositions que j'avais faites dans ce livre tenaient la route avec les images, puisque les images, précisément, ont pour caractéristique à la fois de rendre visible le monde, mais ne pas être, pour employer un terme savant, propositionnelles, c'est-à-dire elles ne sont pas formulées dans un langage articulés, mais ce sont des choses qui sont censées figurer quelque chose. Alors, figurer quoi? C'est toute la question du livre.
Bah, justement, je peux vous proposer une image qui est dans votre ouvrage, ouvrage d'ailleurs particulièrement bien illustré, justement, pour comprendre tout ça. Si la régie peut l'envoyer. Donc, voilà.
Dans lequel, du fait de la séparation entre l'intériorité, l'esprit, si vous voulez, et la forme physique, on ne sait jamais véritablement à qui l'on a affaire. Donc on va rencontrer un animal dans la forêt, mais c'est peut-être un humain, c'est peut-être un autre animal déguisé, etc., etc. Et donc, une chose importante dans un contexte de ce type-là, c'est de pouvoir entretenir des relations de bonne intelligence avec ces esprits, parce qu'en général, beaucoup d'entre eux sont assez agressifs. Et donc, il faut pouvoir les rendre présents, physiquement. Et on fait cela dans certaines parties du monde, et notamment en Amazonie, comme cette image l'indique, avec ce qu'on appelle des masques-costumes. Pourquoi est-ce que ce sont des costumes? Parce que dans beaucoup des cultures animistes, le terme pour désigner le corps, c'est le même terme que pour désigner le vêtement. En réalité, cette idée, en somme, que le corps est comme un vêtement qu'on endosse ou dont on se défait, qu'il est donc amovible, rend possible le fait de rendre présent des esprits, comme celui-là, qui vient participer à un rituel et qui, sur la place du village, ça se passe au Brésil central, chez les Wauja, et rencontre une petite fille qui n'est pas très rassurée par cet esprit. Donc l'image ici, et c'est pour ça que je parle d'image et de figuration plutôt que d'art, l'image ici, c'est un corps humain transformé en un corps d'esprit, de la même façon d'ailleurs que des corps humains qui ornés avec des parures ou avec des peintures, et avec des peintures en général, sont des images d'esprit. Autrement dit, les images, c'est pas simplement ce à quoi nous faisons référence comme là, c'est une photographie, c'est-à-dire une représentation en deux dimensions. Ce sont des façons de figurer quelque chose avec de très nombreux moyens différents, dont des corps humains.
D'accord. Et donc, là, c'est le champ de l'animisme. Vous aviez commencé à aborder le champ du totémisme, qui, dans mon esprit, au départ, était totalement mélangé. Hein. Et le totémisme...
Vous n'êtes pas le seul.
Oh, je me doute. C'est pour ça que l'ouvrage m'a passionné. Le totémisme, vous prenez beaucoup l'exemple de l'Australie, qui est, non oui. pas caricatural, mais qui incarne bien cette idée-là, où là, on n'est plus du tout dans le faire vivre un esprit, lui donner une forme. On est dans quelque chose où on fait des relations entre des choses, des caractéristiques physiques... mental ou d'état d'esprit, de choses qui finissent par faire quelque chose ensemble. C'est quelque chose de cet ordre-là.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est le rapport qu'un groupe d'humains, de non-humains, qui partagent des qualités physiques et morales, entretient avec un prototype originaire. Et ce prototype originaire, je l'ai dit, il peut porter un nom d'animal, mais c'est... Et on lui donne une figuration animale. Et donc, ce qui compte, c'est de montrer ce prototype originaire pour montrer, au fond, qu'il représente la matrice du corps social et du groupe totémique. Alors, comment on fait ? Eh bien, par exemple, il y a une forme de figuration qui est très commune dans le nord de l'Australie, c'est celle-là, qu'on appelle la figuration en rayon X, et qui donne à voir la structure interne de l'animal totémique. Ici, c'est un poisson Barramundi, avec les arêtes, les organes, etc., pour donner à voir de façon nette que dans le corps de cette... c'est pas vraiment un ancêtre, hein, c'est un prototype, c'est-à-dire qu'en fait, il est toujours actif. Son corps, vu à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, est, au fond, la matrice du corps social. Mais il y a aussi une autre façon de montrer cela. Alors, vous remarquerez que de cette peinture, là, c'est une peinture rupestre, et l'être est complètement vu dans son autonomie. Hein. Il n'y a pas d'interaction avec d'autres êtres. Ça, c'est très caractéristique de ce genre de peinture australienne. Il n'y a pas de décor non plus. Ils sont, c'est vraiment une figure isolée qui est une matrice du corps social. Mais il y a une autre façon de représenter ça aussi, qui est tout à fait caractéristique du centre de l'Australie, c'est de montrer les traces que ces êtres ont laissées, parce que dans les récits étiologiques qui racontent l'origine, au fond, de ces groupes totémiques, des êtres ont surgi de la Terre, ont eu toutes sortes d'aventures, ont parcouru des grandes distances, ont campé, ont fait la guerre, ont fait l'amour, ont fait des tas de choses. Et puis, chacune des actions qu'ils ont menées à la surface de la Terre a abouti à modifier la topographie. Et donc le totem Python, en glissant le long d'un dans le sable, a créé un oued, par exemple, ou a déposé des œufs qui sont devenus un amas rocheux, etc. Donc l'ensemble du paysage, l'ensemble de la topographie familière est le produit des traces qui ont été laissées par ces êtres. Et donc la forme de la figuration est ici assez différente de ce qu'elle est dans l'animisme, puisque dans le totémisme, on vit dans un monde de traces qui sont soit des traces laissées par des ancêtres, soit des matrices structurelles de l'ordre social. Et dans les rituels où on utilise des représentations de ces ancêtres totémiques, ce que l'on figure, ce ne sont pas des ancêtres totémiques qui devraient être ressemblants, parce que personne n'a aucune idée de ce à quoi ils ressemblaient. Au fond, on les appelle par un nom d'animal, donc on représente un animal, mais c'est une simplification, si vous voulez. Et on va reproduire sur le corps des danseurs le trajet qu'a accompli le totem dans le segment, si vous voulez, de clan, par exemple, dépend de ce totem.
Donc, du coup, on n'a pas de dialogue avec le totem.
Non, on n'a pas de dialogue, on le fait... Alors, on peut éventuellement rêver, faire des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout le même genre de rapport direct, intimiste, j'allais dire, que celui qui se produit dans le cadre de l'animisme. On manipule des traces, au fond. Hein, et c'est en manipulant des traces que l'on va réactiver la puissance, bien évidemment, du totem, puisque la trace, et c'est la trace très physique, hein, c'est-à-dire c'est l'empreinte en négatif, par exemple dans le désert central, de ce qu'un être totémique a laissé dans l'environnement. Et donc cette trace, elle est encore un but de sa présence. De la même façon qu'une odeur, tout d'un coup, qui nous saisit, dénote la présence d'une personne qui est passée peu de temps par avant. Ça nous arrive souvent avec des parfums. Voilà.
Avant d'attaquer la troisième ontologie, je fais une petite digression, parce que je vous ai entendu dire dans une interview, je ne sais plus laquelle, qu'en fait, on avait aussi, nous, des totems. C'est-à-dire, par exemple, la culture maurassienne, je vous ai entendu dire que... Ben oui, je trouvais ça intéressant, parce qu'en fait, on le dit, c'est les Australiens, c'est les traces, très bien. Mais en fait, quand on dit une certaine idée de la France, par exemple, ça relève d'une mécanique totémique.
Alors, on n'a pas des totems. Ce que l'on a, c'est l'idée que des gens, à l'intérieur d'un milieu délimité... dans des paysages particuliers, avec des animaux, des plantes, des façons d'être, etc., constitue un ensemble qui est tellement singulier qu'il n'est comparable à aucun autre. Et c'est un peu la base du totémisme australien aussi. Et donc, on peut penser, on peut effectivement penser que c'est un fondement d'une idéologie maurassienne, c'est-à-dire de la petite patrie, l'identification profonde à un lieu. Mais dans une perspective maurassienne, on exclut ceux qui ne sont pas de ce lieu, alors que les aborigènes australiens ont fait le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont, dans leur organisation sociale, qui est très compliquée, je ne vais pas rentrer dans le détail, imposé la nécessité de la coopération entre les différents groupes totémiques. Donc chaque groupe totémique, au fond, est lui-même profondément identifié à des lieux, profondément identifié à des êtres, mais a besoin des autres, ne serait-ce que pour échanger des conjoints et pour avoir accès à des territoires de chasse, etc. Donc à imposer la solidarité et l'échange pour contrer cette forme de nationalisme ontologique, si vous voulez.
D'accord. Troisième ontologie, troisième mondiation que vous distinguez dans ce livre et que vous illustrez, c'est l'analogisme.
Alors l'analogisme, c'est quelque chose qui en fait nous est tout à fait familier, puisque c'est notre passé encore relativement récent et qui subsiste encore dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est l'idée que le monde est composé d'une très grande diversité d'éléments, d'états, de situations, et qu'il faut pouvoir tisser entre ces éléments des liens significatifs. Et on fait cela par le raisonnement analogique, hein, c'est-à-dire telle chose est à telle autre, comme celle-ci est à la... Et donc, on associe hein, des éléments dans des grandes chaînes d'analogie. C'est pour ça que je parle d'analogisme, même si la pensée analogique est une pensée universelle, elle est mise à profit dans l'analogisme hein, de façon systématique. Donc la pensée du Moyen-Âge, par exemple, est typiquement analogiste. Des grands schèmes cosmologiques de la pensée du Moyen-Âge, c'est là qui date de Plotin, c'est la grande chaîne de l'être, c'est-à-dire l'idée que tous les éléments de l'univers, tous les êtres sont liés dans une chaîne hiérarchique avec de très faibles écarts entre chaque être, mais néanmoins des écarts, et que c'est cette chaîne qui permet de comprendre au fond la totalité du beaucoup bien au-delà du vivant d'ailleurs, de la totalité des êtres. Et cette façon de voir, cette façon de penser qui s'est effritée progressivement, notamment dans les images, et qui est caractéristique en effet. Alors cette image, si vous voulez, les chimères représentent une des formes les plus évidentes de la pensée analogiste, dans la mesure où elle combine des éléments extrêmement disparates avec un principe unificateur, si vous voulez, qui est l'être. Alors ici, c'est un éléphant qui réunit ces éléments. Et donc, ça rend visuellement pertinent cette combinaison qui est caractéristique de l'analogisme entre le caractère disparate des éléments et puis des principes d'unité ou des principes de cohérence, parce que la plupart des chimères, alors là c'est un éléphant, donc c'est un animal réellement existant, mais la plupart des chimères, même celles les plus fantaisistes au fond, ont toujours un principe de vraisemblance, c'est-à-dire que les différentes parties anatomiques sont réparties de telle façon que cet être, semble-t-il, peut mener une vie autonome, que ce soit un centaure, un griffon, etc. Et donc, c'est une des images de l'analogie, c'est-à-dire c'est une des façons de figurer cette très grande... La diversité des éléments du monde et, en même temps, l'idée qu'il y a des voies par lesquelles cette diversité peut être réduite à des principes. Alors c'est quelque chose qui est très commun en termes géographiques. Moi je parle d'archipel pour la répartition de ces formes de mondiation. Et donc il y a l'archipel animiste, hein, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, et couvre une grande partie de la planète, mais de façon discontinue. L'archipel analogiste, c'est la même chose, c'est-à-dire notre propre passé, à la fois médiéval et dans l'Antiquité, mais aussi une partie de l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, les hautes terres d'Amérique du Sud et du Mexique, l'Extrême-Orient, une grande partie de l'Extrême-Orient, etc., sont des archipels analogistes. Et ce qui est intéressant lorsqu'on s'intéresse précisément aux images, c'est de voir que par-delà les différences culturelles, par-delà l'éloignement géographique, on retrouve des thèmes entre des cultures, si vous voulez, qui n'avaient aucune communication, mais qui ont employé les mêmes moyens visuels pour structurer la façon dont elles souhaitaient rendre visible le monde qu'elles percevaient. Et ça, c'est une des choses sur laquelle j'ai essayé d'insister dans ce livre. Je vais prendre un exemple, un élément important dans l'animisme, c'est la métamorphose. La métamorphose, c'est tout simplement la capacité qu'on a de passer de la vision de l'intériorité d'un être à son aspect physique. Donc c'est cette dissociation entre l'intériorité, l'âme si vous voulez, et puis l'enveloppe physique. Alors il y a différentes façons de faire ça. Et une des façons de faire ça, la plus spectaculaire, la plus évidente, c'est ce qu'on appelle les masques à transformation sur la côte nord-ouest du Pacifique américain. Ce sont des masques avec des volets qui, lorsqu'ils s'ouvrent, ce sont en général des esprits animaux, hein, donc ils sont très reconnaissables. C'est un renard, c'est une loutre, c'est un corbeau, mais quand il s'ouvre, en général, il y a un petit visage à l'intérieur, et le petit visage, c'est l'intériorité de cet esprit. Donc on convoque l'esprit dans des rituels, et puis ces masques servent à rendre visible, au fond, le fait qu'ils sont doubles, qu'on peut passer d'un aspect à l'autre. Mais il y a une façon extrêmement simple de faire ça aussi, ce sont des masques avec une division latérale, hein, mi-humain, mi-animal. Ce ne sont pas des êtres chimériques, c'est un moyen de basculer de l'intériorité de l'esprit animal à son côté physique. Donc il suffit quelquefois de se déplacer de quelques centimètres et puis on est bloqué dans l'une des faces. Et on trouve ce dispositif aussi bien dans la côte nord-ouest du Pacifique américain qu'en Malaisie, par exemple. Culture qui n'a aucune chance d'avoir jamais eu de communication, parce que c'est un moyen visuel extrêmement simple et extrêmement commode. Vous connaissez l'illusion visuelle du canard et du lapin, hein, c'est-à-dire quand on est bloqué dans le canard, on ne voit plus le lapin, et quand on est bloqué dans le lapin, on ne voit plus le canard. Eh bien, ce système de division latérale permet de basculer de l'un à l'autre, comme ça, et une fois qu'on est bloqué dans l'un, on ne voit plus l'autre. Donc c'est des correspondances de ce type-là qui m'ont beaucoup intéressé et qui me donnent à penser que ces façons de figurer le monde sont fondées sur un nombre limité de formes de construction de l'espace visuel que j'essaye de décrire et d'analyser dans ce livre,
en tout cas.
et la dernière forme ontologique, la dernière mondiation, c'est la nôtre. C'est-à-dire qu'elle est encore plus compliquée pour moi à appréhender, parce qu'on vit dedans, on se dit qu'on vit dedans et que c'est naturel, pour le coup. Et en fait, vous l'appelez naturalisme. Et du coup, comment vous la décririez pour des gens qui vivent dedans et qui, en fait, n'arrivent pas à prendre nécessairement la hauteur nécessaire pour avoir la distance, la bonne distance, à la façon dont on voit nous-mêmes le monde ?
Je l'ai dit tout à l'heure, dans le contraste avec l'animisme. C'est-à-dire que le naturalisme devient quelque chose de, j'allais dire, de presque exotique, qu'à partir du moment où on le voit à partir d'autres points de vue. C'est quand même tout le mérite de l'ethnologie, de l'anthropologie, c'est d'apporter ce que Lévi-Strauss appelait le regard éloigné, c'est-à-dire de revenir d'une familiarité avec un peuple quelque part dans le monde et porter le regard qu'on a, qu'on partage, qu'on finit par partager avec ce peuple, le porter sur soi-même. Donc le naturalisme, c'est justement l'idée qu'il n'y a que les humains qui ont une intériorité, mais qu'en revanche, les humains sont soumis, comme tous les autres êtres et états de la matière, aux décrets des lois de la nature. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant dans le naturalisme, c'est qu'il naît dans les images avant d'avoir été thématisé, explicité, dans les textes. Dans les textes, c'est classiquement au moment de ce qu'on appelle la révolution scientifique, c'est-à-dire au XVIIe siècle, c'est dans les textes de Descartes, de Galilée, que cette façon de voir les choses commence à surgir dans les élites européennes et ensuite se développe au fil du temps jusqu'au XIXe siècle et avec au XIXe siècle l'invention de l'idée de nature d'ailleurs, de culture pardon, qui vient de fournir un contrepoids à la nature. Mais dans les images, on voit ça beaucoup plus tôt. Dans les images, on voit ça dès le XVe siècle. Alors ça, par exemple, c'est Octobre, hein, c'est les très riches heures du duc de Berry, c'est les frères de Limbourg, et on voit ça dans les enluminures dès le début du XVe siècle, avec des gens qui, non seulement, comme c'est le cas dans cette enluminure, représentent avec une obsession mimétique très grande le monde tel qu'il est, et non pas le monde tel qu'il serait... Alors bien sûr, il y a des symboles, mais la représentation du monde médiéval, elle était auparavant quand même surtout fondée sur des images symboliques. Hein. C'est-à-dire que les personnages étaient là pour ce qu'ils valaient comme symbole. Là, c'est le cas aussi, bien sûr. On ne peut pas complètement se défaire de cela en quelques décennies. Mais c'est quand même surtout la description de gens qui font... c'est Octobre, donc c'est des gens qui labourent, qui sèment. Il y a un épouvantail. Enfin, c'est toute chose qu'on n'avait jamais décrite auparavant avec une telle minutie en Europe. Et donc, ce que la figuration naturaliste dès le XVe siècle et bien avant, sa transcription est philosophique, si on peut dire, montre en premier lieu, c'est le fait que les humains ont une intériorité. Ce sont des sujets. Et donc, on le voit dans l'art du portrait, bien sûr, hein, c'est-à-dire dans cette obsession qu'on a de témoigner de la singularité des individus dans le regard, dans les caractéristiques de leur visage, dans l'environnement à l'intérieur duquel ils sont disposés, mais aussi cette idée de la continuité des êtres et des choses dans un espace homogène, qui, bien avant... ce que Descartes appelait la res extensa, c'est-à-dire au fond un univers, un espace mathématisable, etc., est visible dans les images. Il est visible à la fois dans la construction des paysages, il est visible aussi, bien sûr, dans la construction de la perspective, qui, nous avons l'habitude de la perspective, c'est-à-dire nous avons été formés, alors bien sûr, elle a été mise en question par le cubisme et par l'art moderne, mais une grande partie de notre éducation visuelle est fondée sur la représentation perspective, c'est-à-dire sur le fait qu'un sujet va construire la représentation du monde à partir de l'organisation d'un point de fuite qui est sa propre personne. Et ça, c'est quelque chose de très exceptionnel dans l'histoire de la figuration, dans les différentes façons de figurer, parce que la plupart des façons de figurer sont des façons que j'appellerais polyperspectivistes, c'est-à-dire qu'ils sont fondés sur la juxtaposition de points de vue différents. Alors vous avez ça, par exemple, dans... je reviens à ces cultures du nord-ouest de la côte pacifique américaine. Vous avez des images d'un ours. Cet ours, au lieu de le représenter de face ou de profil, on va le représenter avec les deux faces sur les côtés dépliées le long d'un axe central. Et donc, on donne à voir ainsi deux perspectives, c'est-à-dire les deux côtés, les deux profils, sur le même animal. Mais on peut développer ça aussi et multiplier encore les perspectives. Ça se faisait au Moyen-Âge. C'était tout à fait caractéristique. On présentait un décor vu du ciel, par exemple, et dans ce décor vu du ciel, des personnes qui étaient debout, des animaux. Donc c'était au moins deux perspectives, deux points de vue sur une scène. Mais ça a progressivement disparu jusqu'à ce que les cubistes réinventent, au fond, ce polyperspectivisme, c'est-à-dire le fait que l'on va figurer un individu ou un objet ou même un paysage en le fragmentant à partir de différents points de vue. Et donc c'est pour ça que, enfin, j'espère que ce livre aura notamment comme effet de nous faire prendre conscience ou de faire prendre conscience à nos concitoyens que justement notre propre façon de figurer est tout à fait singulière et qu'elle n'est pas le terme d'une série d'expériences maladroites qui auraient été menées depuis le paléolithique et dont les tableaux des peintres pompiers du 19e siècle seraient l'achèvement.
Et on sait ça, c'est pas l'aboutissement d'une évolution de la qualité du dessin, ça serait même plutôt une perte de diversité de point de vue en n'ayant qu'un seul point de vue qui est celui du regardant.
Voilà, exactement.
Et on se retrouve avec un seul objet, alors que dans le livre on voit bien il y a des formes étonnantes de diverses perspectives qui se cumulent avec des récits symboliques qui se superposent et qui donnent une richesse quand on sait l'interpréter, ce qui n'est pas le cas quand on vit pas dans la mondiation. Sauf si s'il est décrypté comme ça l'est dans le livre. Mais j'ai eu l'impression de me dire que la figuration dans laquelle je vivais était moins riche en termes de volume de manipulation symbolique de ce que proposait l'image et la figuration que dans d'autres mondiations où il y avait une richesse qui était plus diverse.
Je ne sais pas si elle est moins riche, parce qu'elle est très riche quand même. Je ne veux pas débiner la mondiation naturaliste, mais la richesse, elle vient plutôt de la mise à plat de l'ensemble des formes de figuration. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses alternatives, dont la nôtre n'est qu'une expression parmi d'autres. Et à l'intérieur de cette forme d'expression, elle a acquis une grande diversité, une grande richesse. Mais il y en a bien d'autres qui ont l'air d'une très simple, quelquefois maladroite, malhabile, et qui en réalité sont très originales sur le plan de la construction visuelle.
Donc on a bien vu ces quatre formes d'ontologie figurative qui permettent de voir le monde, d'exprimer le monde, de le figurer en fonction de la façon dont on l'appréhende culturellement. J'aimerais revenir sur cette question du naturalisme, sur ce rapport humain et non humain qui est en train de, sur lequel vous êtes engagé, sur les grands enjeux sociétaux, notamment écologiques, en disant attention, cette façon de voir le monde nous amène dans une impasse. C'est-à-dire que vous faites pas revenir juste au capitalisme, vous faites revenir au naturalisme, même à la façon dont on a mis la nature à distance. Comment vous abordez ces questions sociétales à l'aune de cette lecture ontologique de la façon dont on figure et on se regarde le monde nous-mêmes?
Ben justement, ce que j'espère faire dans le livre, c'est de montrer, de nous faire décoller le nez du type d'image qui nous sont habituelles et du type de mondiation qui nous est habituelle. Non pas pour proposer des solutions alternatives qui viendraient du Moyen-Âge ou d'Amazonie, parce que chaque situation historique est singulière et donc n'est pas transposable, mais pour nous faire prendre conscience que la situation que nous vivons actuellement, avec la détérioration des écosystèmes, avec la sixième extinction des espèces et bien évidemment le réchauffement global, fondée au départ, me semble-t-il, en tout cas, sur cette séparation entre les humains et puis une nature qui leur est extérieure et qu'ils regardent en surplomb, soit comme une source de de satisfaction esthétique, soit plus généralement comme une... Les deux sont liés. C'est une source de satisfaction esthétique lorsqu'il y a une certaine extériorité aussi. La peinture de paysage est un bon témoignage de ça. Et pour peindre un paysage, il faut une certaine extériorité par rapport au paysage. Il faut le voir depuis un certain point de vue. Et donc il devient, de ce fait, extérieur aux humains. Et bien sûr, l'autre conséquence, c'est de considérer les non-humains comme des ressources. C'est la nature inanimée. Alors, il y a une conséquence positive aussi de ce mouvement, de ce grand mouvement naturaliste, c'est le développement des sciences. C'est-à-dire, il a été rendu possible, notamment, bien qu'il y a d'autres chemins qui auraient pu se dessiner, qui se dessinent dans certaines sciences d'ailleurs, il a été rendu possible par l'extériorité de la nature. On pouvait la mathématiser parce qu'elle était extérieure à nous. Et donc, les sciences reines, que sont d'abord la physique et ensuite la biologie, ont hérité, en quelque sorte, de cette position de distanciation entre les humains et ce qu'ils observaient chez les non-humains. Mais évidemment, cette séparation, cette domination qu'impliquait la séparation a été aussi le terreau sur lequel s'est développée la révolution industrielle, le capitalisme industriel, et donc une exploitation effrénée de la terre. Je ne fais pas d'irénisme, c'est-à-dire les Chinois aussi... qui sont un système analogiste absolument classique, ont canalisé les fleuves, ont créé des digues, des terrasses, etc., mais dans une perspective qui était un peu différente. Et c'est la rencontre de cet esprit et du capitalisme industriel qui, en Chine aussi, a donné des résultats que l'on connaît également.
Du coup, vu que c'est la mondiation, comme vous l'appelez, la mondiation inconsciente dans laquelle on vit, qui est en train de potentiellement nous amener à des catastrophes qui, du coup, touchent toute l'humanité. On ne peut pas changer d'ontologie comme on change de chaussettes.
C'est ça le problème.
Toute l'urgence dans laquelle on se situe en ce moment, est-ce que la vitesse d'évolution de la façon dont on voit le monde est compatible avec l'urgence dans laquelle on se retrouve, et comment stimuler non pas une évolution de la façon dont on voit le monde, mais comment inciter dans cet inconscient de la façon dont on voit le monde à un nouveau comportement.
Ah, ça, c'est une très bonne question. Je crois que c'est le grand défi du siècle dans lequel nous sommes, qui est d'inventer nouveaux rapports aux non-humains, qui ne soient pas des rapports d'exploitation. De même que, évidemment, parce que les rapports d'exploitation, ils sont aussi caractéristiques vis-à-vis des humains. Et donc, au fond, on traite les humains comme on traite la nature, et vice-versa. Et de ce point de vue-là, l'anthropologie et l'histoire cette vertu de nous... stimuler, justement, c'est l'expression que vous avez employée, je crois qu'elle est juste, à imaginer d'autres formes, c'est-à-dire à ne pas penser que nous sommes une espèce de toboggan pas trop inconfortable, jusqu'à ce qu'on arrive à 4 degrés supplémentaires de température moyenne mondiale à la fin du siècle, mais un toboggan dans une glissade, au fond, qui ne... que rien ne peut arrêter. Parce qu'il n'y a pas d'autres voies. Or, ce n'est pas vrai. Il y a bien d'autres voies, précisément, qui ont été explorées, exploitées, aussi improbables qu'elles puissent paraître, par d'autres civilisations, même à présent et jadis. Et c'est pour ça que l'effort collectif que nous devons tous faire pour imaginer des formes différentes de vie... elle peut s'alimenter à ses expériences de vie. C'est pas des abstractions, les Atchouars, ils ont inventé une forme de coexistence avec les non-humains qui n'est pas transposable, mais qui est en même temps un objet à la fois intellectuel, moral, politique, rempli de, au fond, de suggestions pour un futur différent, et même chose pour bien d'autres. Donc c'est un effort collectif, ça c'est indispensable. Moi je suis très attentif aussi à ce qui se passe dans des lieux où on fait des expérimentations alternatives. Donc j'ai, avec Elisa Lévy, une jeune réalisatrice qui a fait un film dans lequel je m'exprime un peu longuement sur ces questions-là, qui s'appelle La composition des mondes. Je fais référence non seulement, bien évidemment, une partie est tournée en Amazonie, mais à ce qui se passe dans des zones comme les zones à défendre, par exemple, comme Notre-Dame-des-Landes, où des gens essayent de développer une manière de vivre ensemble qui soit à l'écart du consumérisme, de la Marx appelait ça le fétichisme de la marchandise, au fond, c'est-à-dire le fait que les rapports entre les humains sont vus comme des rapports entre des choses et sont médiatisés par des choses, par des marchandises, et donc perdent aussi une partie de leur saveur. Donc des expériences de ce type-là sont intéressantes. Je ne pense pas qu'on puisse envisager un monde qui serait entièrement fait de ZAD, mais un monde dans lequel, plus divers, dans lequel des tissus de communes, comme c'était le cas dans l'Italie médiévale, interagissent avec des entités étatiques comme les États du Pape ou bien des multinationales comme Venise, et probablement le monde vers lequel nous nous dirigeons, qui sera plus divers, sans doute plus compliqué, probablement plus conflictuel aussi, dont on peut espérer qu'il, sous des formes qui restent à inventer, de médiation entre ces différentes formes politiques, pourrait parvenir à rendre moins inévitable la descente vers l'abîme. Mais il y a quelque chose aussi qui est très important, je pense, et qui est une question d'éducation individuelle. C'est-à-dire l'éducation au vivant, l'attention au vivant, faisait partie de l'enseignement ordinaire il n'y a pas si longtemps encore, en tout cas à la campagne. Dans les leçons de choses, on apprenait à identifier des champignons, etc. On faisait des herbiers, on s'intéressait à la vie des insectes, etc. Ces choses ont peu à peu disparu sous les coups de boutoir d'une conception un peu positiviste ou mécaniste de la biologie. Et j'en vois pour preuve le fait que l'écologie scientifique en France n'a pas l'aura et les moyens d'ailleurs d'exercice qu'elle mériterait. Et de ce point de vue-là, je pense que ces deux sciences de la diversité, que sont l'anthropologie et l'écologie, à mon sens, devraient être enseignées dans le secondaire, de façon à faire percevoir précisément les fondements de la diversité, à la fois des écosystèmes, mais aussi des cultures, des langues, des normes.
Avant de passer aux questions de la salle, j'ai une dernière question par rapport à justement ces évolutions que vous décrivez, l'importance de l'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas chez les plus jeunes, dans les mouvements pour le climat, dans la révolte environnementale, une nouvelle forme de mondiation, des prémices de quelque chose? On les entend parler de Gaïa, ils reprennent des choses qui relèvent d'un imaginaire un peu nouveau, un peu différent du monde dans lequel moi je m'inscris, en tout cas historiquement. Quand on les entend, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui est peut-être ce nouveau récit, cette nouvelle façon d'aborder le monde dont on n'a pas encore les mots, ils n'ont pas encore construit les codes qui vont avec.
Oui,
est-ce que je me trompe ou est-ce
non,
que
non, pas du tout. C'est vraiment l'impression que je partage aussi. Il m'est arrivé de rencontrer des jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est des gens entre 15 et 18 ans, donc qui étaient à la fois profondément concernés par ce que j'appelle l'entrée dans le... C'est Bruno Latour qui appelle ça le nouveau régime climatique. Je pense que c'est une bonne expression, l'entrée dans le nouveau régime climatique, et en même temps extrêmement remonté contre les générations précédentes, notamment la mienne. Les baby boomers qui ont profité des 30 glorieuses, même si en fait je m'active beaucoup sur ce front depuis une quarantaine d'années, mais cela dit, on est tous globalement un peu responsables de ça, d'avoir vécu dans une espèce de bonheur de la consommation. Et ils sont, je pense, concernés. Ni eux ni nous n'avons encore complètement les moyens de conceptualiser le monde nouveau vers lequel nous nous dirigeons, et puis surtout les alternatives nécessaires pour ne pas s'enfoncer dans ce monde nouveau, enfin dans ce monde, plus exactement dans le prolongement du monde actuel, mais avec des conditions exacerbées. Donc je crois, en effet, vous avez raison, c'est un motif d'espoir. Et c'est vraiment chez les très jeunes qu'on voit ça. Alors, oui, c'est un motif d'espoir.
Et bien, sur cette note d'espoir, je vous remercie, Philippe Descola, du temps et de tous ces éclairages que nous avez apportés. On a un petit peu de temps pour des questions de la salle, s'il y en a. Oui, on peut l'applaudir parce que c'est un vrai plaisir.